おかしいおかしい。
C'est pour avoir continué sur la séquence de la paix, je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais, présentée ce soir par Jean-Claude Ntumba Kamara.
Bonsoir. La Grande-Bretagne signale la présence sur son territoire de 4000 Congolais en situation irrégulière. D'après un communiqué de l'ambassade britannique publié hier mercredi, le gouvernement britannique indique que cette présence n'envisage pas retourner ces milliers de Congolais immigrés illégaux dans les prochains jours. Sur le même sujet de l'immigration, l'ambassadeur de France, dont le pays préside depuis quelques semaines l'Union européenne, s'est exprimé ce jeudi. Bernard Prévost a insisté sur la nécessité de doter l'Europe d'une politique commune visant la maîtrise des flux migratoires. Quelle est alors la situation exacte des Congolais immigrés illégalement en Grande-Bretagne et que compte faire nombre de nos compatriotes? Comment régler ce problème d'immigration illégale des Congolais à l'étranger? Voilà les principales questions du débat dans cette émission Dialogue entre Congolais. Nous avons déjà reçu vos premières réactions et nous en parlons dans cette émission avec pour invité Baïtoura Moussoua Chadrak, député national RCD et rapporteur de la commission Relations extérieures à l'Assemblée nationale. Junior Badila, coordonnateur de Bissau Africa, c'est une association des Congolais vivant à Londres, en Grande-Bretagne. Et Moïla Chiembe, président de la Fédération des Congolais étrangers en France. L'ambassadeur britannique se dit pas disponible pour le débat de ce soir. Si tout va bien, nous pourrions l'avoir prochainement pour vous.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Nous parlons bien dans ce dialogue entre Congolais de la Grande-Bretagne qui signale la présence sur son territoire de 4000 Congolais en situation irrégulière. Mais commençons d'abord par l'adresse de l'Union européenne sur le même sujet d'immigration en Europe. Bernard Prévost, ambassadeur de France, pays qui préside l'Union européenne pour 6 mois, insiste sur la nécessité de doter l'Europe d'une politique commune visant la maîtrise des flux migratoires. C'était ce jeudi au cours d'une conférence de presse de diplomates de l'Union européenne tenue à Kinshasa. Pour l'ambassadeur de France, donc en RDC, l'Europe ne veut pas ériger un mur face aux Africains désireux de s'y rendre. On écoute le diplomate français Bernard Prévost au micro de René Capital.
Est-ce qu'il y a des politiques d'immigration communes entre les 27 pays de l'Union européenne? Non, certainement pas. Et c'est pour ça que la France a souhaité que soit mis en place un pacte européen de l'immigration et de l'asile pour coordonner et harmoniser la politique d'immigration des 27 États membres. Avec le souci, non pas d'établir des barrières infranchissables autour de l'Europe, mais d'avoir des accords avec l'ensemble des États étrangers pour un flux bien maîtrisé, que des étudiants puissent être accueillis, que des techniciens puissent se former, que des chefs d'entreprise puissent circuler, et que les pays de l'Europe puissent aider les migrants à se réinstaller dans leur pays d'origine, soutenus par l'Union européenne.
Nous commençons évidemment par vous, professeur Moïna Chiembe, parce que là, vous vivez en France et nous voilà de suivre l'ambassadeur de France en RDC. La France est le pays qui préside l'Union européenne pour 6 mois. Bonsoir, professeur Moïna.
Bonsoir.
Voilà, professeur Moïna, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la politique que propose la présidence française de l'Union européenne en matière d'immigration?
Disons que la politique qui a été déjà amorcée par la France depuis bien nombre d'années, que ce soit la France de gauche ou la France de la droite, on a assisté depuis bientôt une quinzaine d'années à un raidissement de la politique d'immigration, c'est-à-dire la complexification de procédures. À l'époque, les étudiants, ceux qui avaient la carte d'étudiant et qui étaient accueillis régulièrement en France, pouvaient travailler. Et même au bout d'un certain nombre d'années, les naturalisations étaient possibles au bout de 10 ans. Par la suite, il y avait possibilité, après avoir, même pendant les études, beaucoup de personnes pouvaient travailler. Or, au fil des temps, les gouvernements de gauche et de droite en France ont durci leur politique au regard des étrangers en multipliant les conditionnalités, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut être vraiment un spécialiste pour comprendre ce qu'il en est, tellement il y a eu des lois, tellement on a changé les choses. Et l'autre imbroglio, c'est le fameux pacte européen dont parle M. l'ambassadeur. Bien sûr, il s'agit de coordonner et harmoniser, mais une bonne partie de cette politique émane des États. Donc, il y a une sorte de raidissement général, pas seulement pour la France, mais le raidissement général des pays européens au regard des étrangers et en particulier au regard des Africains. Il y a une sorte de bunkerisation de l'Europe, même si, bien sûr, tout le monde s'en défend. Bien sûr, monsieur l'ambassadeur pourrait expliquer que on va chercher éventuellement à privilégier les étudiants, les entreprises, les artistes, etc., etc. Mais c'est combien de gens, cette catégorie-là, et quand est-ce que ça va commencer, et quelles seront les conditions? Pour l'instant, ce sont des bonnes intentions, mais la réalité, c'est que la situation s'est durcie, au regard notamment des Africains, et la question reste pendante, qu'est-ce que les États feront demain? Ça, on sait déjà que c'est une politique de refus systématique, de fermeture systématique des frontières de l'Europe. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que les pays africains vont faire? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo, en particulier, pourra faire en tant qu'État souverain au regard de ses propres concitoyens qui seraient réfugiés de l'Europe? C'est une question primordiale.
Ouais, ça, on va en parler, évidemment, dans cette émission, quand on va aborder notamment le cas particulier déjà de la Grande-Bretagne. Mais déjà, depuis Londres, il y a Junior Badila. Bonsoir, Junior.
Bonsoir.
Oui, Junior, vous êtes coordonnateur de Bissau Africa. C'est une association des Congolais vivant à Londres. C'est vrai que vous êtes particulièrement concerné par le communiqué que vient de lancer l'ambassade britannique ici à Kinshasa. Vous êtes sûrement au courant au niveau de Londres. Mais d'abord, un commentaire sur la politique française de l'Union européenne en matière d'immigration. Vous venez dessus le professeur Moïna Chiembe qui parle de la fermeture systématique des frontières. Vous êtes de cet avis, vous qui vivez à Londres?
Oui, je suis tout à fait de cet avis. Vous savez, l'Angleterre ne fait pas partie de pays Schengen.
Oui, mais c'est de l'Union européenne.
Ces deux dernières années, l'Angleterre a reçu pas mal de pression en provenance des pays Schengen, notamment la France, la Belgique, l'Hollande. Ces trois pays disent que non, voilà, tous ces immigrés qui ont échoué en France, en Belgique, en Allemagne, ils retrouvent leur terrain ici, en Angleterre. Alors, le gouvernement anglais dirigé par Gordon Brown a subi pas mal de pression de la part des travaillistes. Ils disent que l'Angleterre est devenue un terrain de tous ces immigrés qui ont échoué dans tous les pays, notamment la France. L'année dernière, selon les statistiques de Home Office, le ministère de l'Intérieur, près de 450 000 Africains, je parle d'Africains, je parle de la communauté africaine, 450 000 immigrés qui ont échoué en France, uniquement ont atterri en Angleterre. Alors, le gouvernement, l'opposition travailliste a fait pas mal pression en Angleterre, au gouvernement anglais, pour un peu réduire le nombre de demandeurs d'asile, des citoyens en situation irrégulière. Donc, ce qui est vrai que le gouvernement anglais aussi a durci le ton. Donc, on a assisté pas mal de séries, des lois pour restreindre l'immigration. Il y a eu des cas de refoulement, il y a eu des cas, le gouvernement, les associations, nous, membres des associations, nous avons pas mal fait de critiques. Nous avons fait des demandes au gouvernement anglais pour qu'il puisse revoir, pas subir des pressions, parce que les gouvernements français ou les gouvernements hollandais ou allemands ont dit, mais tenir compte de certaines réalités ici. Ce qui est vrai, je suis d'avis avec les professeurs. Vous savez, l'Europe, la géographie politique européenne a changé et continue à changer. On a l'adhésion de pas mal de pays, on a l'adhésion de la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie. Il y a pas mal de pays européens qui ont adhéré, qui ont adhéré dans l'Union européenne.
Et donc vous pensez que la situation risque de s'empirer, donc le flux d'immigrés vers l'Angleterre à partir de là.
La situation s'empire davantage. Quand les premiers ministres Tony Blair étaient là, en 97, quand Tony Blair avait pris le pouvoir, ils ont dit que la situation des demandeurs d'asile avait chuté 15%. Ben, aujourd'hui, je vous dis, il dit, selon les statistiques récentes de l'année passée, il y a eu 142 000 demandeurs d'asile en Angleterre.
Merci,
142 000 demandeurs.
Oui, Junior Badila, je vous retiens parce qu'on va y revenir, hein, on va revenir sur le cas précis de l'Angleterre. D'abord, nous voulons d'abord avoir le point de vue de Baïtoura Mousso Ouachadrak, député national RCD. Bonsoir, monsieur le député national.
Oui, bonsoir, cher ami.
Voilà, vous venez de suivre les Congolais qui habitent l'étranger, professeur Moïla Chiembe, qui intervient depuis la France, à Nancy, et Junior Badila, lui, qui intervient depuis Londres. D'abord, par rapport à l'adresse de l'ambassadeur français sur la politique européenne de l'immigration, qu'est-ce que vous pouvez avancer comme votre première argumentation?
Oui, monsieur le journaliste, de mon point de vue, je pense que je ne repousse pas totalement le point de vue de mes compatriotes qui s'expriment à partir de Paris et de Londres, étant donné que l'interdépendance entre les nations fait qu'aujourd'hui, il est impossible pour que l'Europe puisse concevoir une quelconque politique pour fermer ses frontières vis-à-vis de d'autres pays. Puisque nous savons que de tous les temps, les hommes ont émigré d'un pays à l'autre. Et cela, je parle non seulement comme député national chargé des relations extérieures, comme rapporteur au niveau de la commission, mais aussi comme technicien d'immigration. Et je sais bien que de tous les temps, les hommes ont émigré d'un pays à l'autre, soit pour les affaires, soit pour les études, soit lorsqu'ils sont réfugiés, soit pour des missions de service, soit pour le travail. Et de mon point de vue, je pense que lorsque l'immigration est régulière pour le travail, pour les affaires de manière régulière, je ne pense pas que l'Europe puisse concevoir une politique de fermeture des frontières contre les autres pays. Plutôt, je suis persuadé, je sais que chaque pays a toujours eu sa réglementation dans le domaine de l'immigration. Laquelle réglementation devrait être respectée par tous les ressortissants de plusieurs pays. Et je pense qu'il serait vraiment bienvenu pour l'Europe, surtout l'Europe continentale, de pouvoir concevoir une politique de nature, non seulement fermer ses frontières, puisque cela est impossible dans le monde, devenir comme un petit peu avec la mondialisation.
Et l'ambassadeur français l'a dit. Non, je dis que l'ambassadeur français l'a dit, hein.
Oui, mais plutôt de voir de quelle mesure, justement, les Africains ou d'autres ressortissants d'autres pays peuvent émigrer régulièrement dans les pays européens, étant entendu que lorsqu'il se passe des migrations clandestines, et cela ne fait que tenir davantage l'image des marques des pays d'origine, et là je parle très exactement de notre pays. Oui. Je crois que ce n'est pas très très catholique que nos compatriotes parlent ce genre de phénomène qu'on appelle Ngoulou, et aillent en Europe ou dans d'autres pays, donner à des métiers de compensation et pour tenir l'image des marques de notre pays. Je pense que donc il faut qu'il y ait une réglementation dans ce sens, et que nos compatriotes qui choisissent de vivre dans notre pays,
oui,
puissent y aller régulièrement et entrer dans des conditions qui sont requises par ce pays.
Voilà. On a compris, monsieur le député national Baïtoura Moussoa, la mise au point de l'Union européenne sur la politique d'immigration sous la présidence française de l'Union nous conduit sans transition à la situation du Congolais de Grande-Bretagne. Je voulais annoncer dans l'introduction de cette émission, la Grande-Bretagne signale la présence sur son territoire de 4000 Congolais en situation irrégulière. Le chiffre est approximatif selon le diplomate britannique. Quelle est leur situation exacte? Dans un communiqué, l'ambassade britannique a publié hier mercredi, le gouvernement britannique a donc indiqué qu'il n'envisage pas de retourner les 4000 Congolais immigrés illégaux dans les prochains jours, chiffre, comme je l'ai dit, approximatif. La Grande-Bretagne n'a pas annoncé l'expulsion d'environ 4000 Congolais de son territoire. La déclaration a été faite par le chargé de mission adjoint de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC, après avoir été reçu par la ministre, la vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger. On écoute Terence Robbins, il est chargé de mission adjointe de l'ambassade de Grande-Bretagne RDC dans cet entretien avec René Capitaine.
Ce n'est pas écrit dans les journaux comme j'ai dit. J'ai bien précisé qu'en fait, on n'a pas l'intention de répatrier 4000 Congolais. Je suis venu au ministère des Affaires étrangères seulement pour expliquer que le sujet d'immigration a une grande préoccupation pour notre gouvernement. On voulait voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le gouvernement de RDC.
Est-ce qu'au niveau de la Grande-Bretagne, y a-t-il eu un recensement d'étrangers pour déterminer ce chiffre de 4000 Congolais qui seront en situation irrégulière?
J'ai dit hier et aujourd'hui que peut-être il y a 4000 Congolais irréguliers en Angleterre, mais on n'a pas des chiffres exacts. Quand on parle des Congolais irrégulièrement en Angleterre, on parle de 4000, peut-être 4000 personnes, mais on ne parle pas d'expulsion de 4000 Congolais. Il y a des gens qui ont fait une demande pour rester plus longtemps en Grande-Bretagne, évidemment, et leur cas était déjà vu par nos autorités d'immigration, et leur cas était refusé. On a décidé avec le vice-ministre qu'en fait, on veut travailler ensemble.
Voilà, Junior Badila, vous êtes coordonnateur de Bisso Africa, une association des Congolais vivant à Londres. Lorsque vous suivez tel communiqué de l'ambassade britannique, comment vous l'accueillez à Londres où vous vivez?
Effectivement, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ici en Angleterre, et parmi les associations de défense.
Pourquoi?
Des Africains, parce que la nouvelle, selon le rumeur, c'est le gouvernement anglais, par les biais de son ambassade à Kinshasa, fait état de l'expulsion de près de 4000 Congolais en situation irrégulière ici. Alors là, je suis content d'attendre les chargés d'affaires de l'ambassade d'Angleterre préciser et indiquer que les chiffres sont approximatifs et ils ne disent pas que ce sont les 4000 Congolais qui seront, qui seront refoulés vers les Congos. En fait, le problème, c'est quoi? Le gouvernement anglais ne peut pas, c'est vrai, il est souverain, mais il tient compte en matière d'expulsion des citoyens habitant dans son pays en situation irrégulière, il tient compte de la Convention européenne en matière de l'immigration. Il tient compte de certains rudiments en matière de droits de l'homme.
Oui, mais Junior, on a compris, le gouvernement britannique respecte donc les lois européennes en matière d'immigration. Mais est-ce que c'est vrai que la plupart des Congolais qui vivent en Grande-Bretagne comme vous, ils vivent de façon irrégulière?
Non, là j'ai démenti l'information. Je vais vous donner un cas. Vous savez, les Congolais tiennent compte en matière d'immigration, en matière des demandes de séjour ici en Angleterre, les gouvernements locaux, les gouvernements anglais tiennent compte de la situation particulière du pays de provenance. Vous savez, le Congo a traversé une longue période de situation instable. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Alors, le gouvernement anglais, tenant compte de ces règlements dont je parlais, j'ai fait allusion, ne peut pas refouler directement ses citoyens en situation irrégulière, disons, les refoulements massifs ou individuels, sans tenir compte de tous les problèmes qui a traversé le Congo. Donc, il y a des Congolais comme partout ailleurs, il y a des Congolais qui sont dans des cas irréguliers, ça c'est vrai.
Ils sont nombreux. Mais
les gouvernements tiennent compte de certaines particularités.
Oui, mais Junior Badila, ils sont nombreux?
Oui, les cas, vous savez, c'est pas facile de préciser et de déterminer les nombres de citoyens en situation irrégulière. Ce sont des chiffres qui échappent même au gouvernement anglais. Vous savez, c'est pas facile de faire les recensements des gens, des citoyens qui habitent ici. Il y a certains citoyens qui sont ici, qui ne sont pas reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils ont rentré pour du logement, mais ils ne sont pas reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Les chiffres que le ministère suit d'avis avec les chargés d'affaires,
les chiffres que le ministère de l'Intérieur avance, ce sont des chiffres approximatifs.
Oui.
Des citoyens qui sont recensés, des citoyens qui sont connus au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, à partir de ces chiffres, de ces statistiques, le gouvernement va voir quels sont les cas à étudier, quels sont les cas à régulariser, quels sont les cas à être refoulés. Donc, dire que les 4000 où il y a 2000 Congolais ou il y a 20000 Congolais qui sont en situation régulière, ça c'est faux.
De toute façon,
le gouvernement anglais, les chiffres l'échappent.
Oui, de toute façon, on a suivi la précision de l'ambassade britannique. Mais professeur Moïla Tiembe, pourquoi alors les Congolais qui sont nombreux lorsque on dit que la Grande-Bretagne respecte les conditions de refoulement, les conditions européennes, la Grande-Bretagne connaît la situation qu'a traversée la RDC, mais la même Grande-Bretagne sait que la RDC est en train de sortir des conflits, il y a eu élection, c'est vrai, l'Est n'est pas encore totalement pacifié, mais est-ce que la situation actuelle ne peut pas encourager ces Congolais-là à commencer déjà à regagner leur pays?
Disons que le problème qui se pose aussi est celui de, comment dirais-je, ces prétendus ou ces immigrés congolais clandestins comme d'autres Africains. D'abord, il est difficile de savoir combien ils sont, par le fait même qu'ils sont clandestins. Ensuite, la Grande-Bretagne, comme l'ensemble des pays européens, monsieur le député l'a rappelé, ce sont des états de droit. Donc, si vous entrez clandestinement dans un pays sans les papiers, vous êtes hors la loi. Et l'état légal a l'obligation de saisir la personne qui est entrée illégalement et de l'expulser vers son pays d'origine, bien entendu, en respectant la dignité humaine, conformément aux conventions internationales, etc., etc. Ça, c'est un acquis, même si de temps en temps, il y a des policiers qui, dans l'émotion ou dans l'obligation de faire le résultat, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui en France, les policiers sont sous une pression quotidienne, on leur demande de faire un chiffre d'expulsion d'étrangers, et il arrive parfois qu'il y ait des maladresses ou des agressions vis-à-vis des personnes que l'on veut expulser. Ça arrive en Angleterre, ça arrive en France, ça arrive partout, mais ce sont des cas rares, il faut le reconnaître. Alors maintenant, est-ce que le marché de l'emploi en Europe, comme en Europe continentale, comme en Grande-Bretagne, les entrepreneurs, notamment dans le bâtiment, dans le secteur, par exemple, de la restauration, qui ont besoin d'une main-d'œuvre, d'abord un travail dur, qui est mal payé, où la plupart des nationaux ne veulent pas le faire, ces entrepreneurs utilisent la main-d'œuvre étrangère. Et c'est là où le bât blesse, qu'il y a une sorte de complicité. Les gouvernements n'arrivent pas à réprimer les chefs d'entreprise qui utilisent la main-d'œuvre étrangère. Or, cette main-d'œuvre étrangère n'arrive clandestinement que parce qu'il y a du travail. Or, tous les gouvernements veulent bien qu'on lutte contre le chômage, etc., etc. Donc, à leur pied, malgré les mesures qui ont été annoncées contre les entrepreneurs qui utilisent la main-d'œuvre étrangère de manière clandestine, on ne voit pas dans les prisons de France et d'Europe les chefs d'entreprise qui embauchent ces gens. Donc, il y a là une sorte de duplicité. Ensuite, bien entendu, la situation de la République démocratique du Congo, notamment dans les régions de l'Est, comme naguère dans l'Ituri, laisse penser qu'il y a là un foyer d'insécurité à partir duquel certains Congolais sont contraints à l'exil. Mais le Congo, malgré cet handicap, a quand même organisé des élections démocratiques à des institutions légitimement désignées. Alors, les États étrangers attendent de voir que ce gouvernement congolais, un jour, va prendre des mesures pour pouvoir discuter avec eux les conditions de retour des Congolais clandestins que leurs économies ou leurs États ne veulent pas accueillir. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut placer le débat, parce que ici, l'intérêt du gouvernement, nous sommes dans des démocraties d'opinion. Rappelez, dans une démocratie d'opinion, quand les sondages disent, mon collègue de Londres indiquait tout à l'heure, les pressions que la Grande-Bretagne subit de la part de la France, de la part de la Belgique, pour ne pas dire de beaucoup de pays occidentaux qui reprochent à la Grande-Bretagne une sorte de facilité pour les étrangers, l'Angleterre est obligée aujourd'hui de s'aligner petit à petit sur la législation continentale qui est plus dure que la législation d'origine anglaise au regard des étrangers. Oui. Donc, il y a, sur la longue période, une vingtaine, une trentaine d'années, une volonté de fermer les frontières de l'Europe. Bien sûr, il n'est pas possible de les former, de les fermer d'une manière hermétique, comme le monsieur le député l'a rappelé, mais il n'en demeure pas moins que toutes les législations qui ont été adoptées depuis les années 80 jusqu'aujourd'hui vont dans le sens de fermeture, de conditionnement et de diminution des conditions dans lesquelles les étrangers arrivaient facilement en France ou dans d'autres pays d'Europe, ce qui est évident. Et en plus, il faut dire que la géopolitique européenne elle-même a changé. Aujourd'hui, certains boulots, les travaux qui étaient considérés comme maîtrisables, notamment dans le bâtiment, notamment dans la restauration, les Africains, ces travaux sont réalisés aujourd'hui par les Européens de l'Europe centrale et des Balkans, qui aujourd'hui sont dans l'Union Européenne où ils seront demain. Donc les choses ont terriblement changé. Il faut avoir un autre regard de l'immigration.
Voilà. Donc en quelque sorte, le marché d'emploi se rétrécit pour les Africains, comme ça.
Absolument.
Voilà. Et du côté congolais maintenant, avec vous, Baïtoura Mousso Achabrak, vous député national à RCD et rapporteur de la commission relations extérieures à l'Assemblée nationale, et si la Grande-Bretagne devrait expulser, parce que là on a suivi la précision de l'ambassadeur, voilà, le pays est en train de négocier avec le gouvernement congolais pour voir s'il y a des Congolais qui sont dans l'illégalité, qui sont obligés de les rapatrier pour que ça se fasse en respectant les lois. Et si on devrait finalement expulser ces Congolais, est-ce que vous pensez que en RDC, les autorités congolaises, vous êtes prêts à accueillir ces Congolais dans des conditions convenables?
Oui, d'abord, je voulais souligner une chose, cher ami journaliste, c'est que j'ai séjourné plus de fois à Londres, à Paris, à Bruxelles. Et j'ai eu l'impression que, au niveau de Londres, nos compatriotes qui vivent en Angleterre, et qu'ils avaient vraiment du travail par rapport à d'autres qui sont sur l'Europe continentale, j'ai eu l'impression que c'était des amis ou des messieurs respectables qui avaient en tout cas du travail. Parce que, évidemment, on n'a pas fait longtemps là-bas, on ne sait pas apprécier la situation dans toute sa dimension. Sinon, l'impression que je sais que, en tout cas, cette réalité serait de mieux en mieux ressentie au niveau de l'Angleterre par rapport à la France et à la Belgique. Alors, pour revenir à votre question, c'est arrivé alors que l'Angleterre décide de rapatrier les compatriotes qui vivent sur le rivière au niveau de l'Angleterre, je crois que cela devrait d'abord cela ne devrait pas se faire dans des conditions tout à fait inhumaines comme on le constate aujourd'hui, et nous avons aujourd'hui l'impression de vivre les droits humains à des vitesses lorsque cela concerne une structure du tiers monde. Et on n'en fait pas qu'à tellement, alors je pense que cela peut se faire dans des conditions vraiment humaines, et n'est pas menotter les gens. On a vu comment les policiers français ou belges, et en particulier nos compatriotes menottés, cela vraiment, nous pensons que cela ne corrobore pas avec les droits humanitaires. Sinon, nous pensons que cette question, si l'Angleterre devrait se décider à rapatrier ses compatriotes, que cette situation puisse se négocier, que entre nous, Congolais et Britanniques, nous sommes des pays amis, et nous avons des rapports d'amitié légendaires, et je crois que nous devrions arriver à nous mettre sur une table, peut-être les deux services d'immigration anglais et les services d'immigration congolais, et appréhender la question tous ensemble et voir dans quelles conditions nos compatriotes peuvent rentrer au pays sans qu'ils soient vraiment obligés de mauvais traitements tels que cela s'observe aujourd'hui.
Oui, mais là vous dénoncez certaines manières pratiquées par la police occidentale, mais vous, qu'est-ce que vous pensez alors des Congolais qui sont expulsés d'Angola dans les conditions que tout le monde connaît? Ça, vous ne dénoncez pas?
Oui, la réalité est vraiment la même. Nous avons dénoncé plus d'une fois nos Congolais qui sont en Angola et pays voisins, pays amis. Nous avons vu des Congolais qui ont même perdu la vie sur le trajet de venir au Congo, qui ont été expulsés de manière tout à fait inhumaine. Mais nous pensons que, comme je le disais tantôt, qu'ils devaient s'observer à une certaine discipline, mais aussi au niveau de nous Congolais quand nous devons nous rendre dans les pays amis. Nous savons, c'est vrai que le Congo a traversé une turbulence pendant plusieurs années sur le plan socio-économique et même sur le plan de la sécurité, ce qui a amené beaucoup de Congolais à s'en aller au gré des pistes, au gré des vagues pour chercher des filets beaucoup plus clairement. Mmh. Nous reconnaissons cette réalité.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui, la situation est différente?
Oui, nous pensons qu'au niveau des intérieurs, en fait, ce qui devrait être fait, c'est que nous devrions nous appeler comme gouvernement à assurer la stabilité socio-économique dans le pays, renforcer les conditions d'immigration et bannir toute forme de corruption au niveau de l'immigration. Mais aussi, nous pensons qu'il faut aussi absolument accélérer la mise en circulation du passeport biométrique qui peut nous aider à bien contrôler la sortie de nos compatriotes, de manière à ce que lorsque nos compatriotes sont dans notre pays, oui, que cela ne puisse pas ternir une fois encore, je l'ai dit au début, oui, l'image de marque de blason de notre pays à l'extérieur.
Merci beaucoup. Vous nous amenez directement dans la dernière partie de cette émission. Comment régler le problème d'immigration illégale des Congolais à l'étranger? On en parle dans la deuxième partie, ou la dernière même, de cette émission. Et c'est juste après ce rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment régler le problème d'immigration illégale des Congolais à l'étranger? D'après les informations en provenance de l'Afrique du Sud, environ 300 Congolais fuient l'opération d'identification dans les camps des déplacés victimes des dernières attaques xénophobes dans ce pays. Pour sa part, Gokwei Kingulube, un Congolais représentant de Our Voice, une ONG basée à Pretoria en Afrique du Sud, estime que si les étrangers, notamment les Congolais, ont décidé de quitter les camps où ils se sont réfugiés, c'est non seulement à cause de ces attaques xénophobes, mais surtout à cause des papiers temporaires de 6 mois leur donnés par le gouvernement sud-africain, documents destinés selon lui à remplacer des papiers de séjour de 12 mois qui ont été délivrés aux étrangers en Afrique du Sud. Kingulube est au téléphone de Thérèse Bassoubi. On l'écoute.
Si les Congolais qui se trouvent à Johannesburg, un peu partout sur le territoire sud-africain, décident de quitter les camps, mais surtout celui de Johannesburg, c'est parce que, bon ben, en fait, ils ont été la plupart victimes des attaques xénophobiques dans les camps de sud de l'Afrique du Sud, à pas mal d'autres Africains, et ils se font parfois arrêter, et ils se font poser la question s'ils sont sud-africains ou pas. S'ils sont trop noirs de peau, ben, les sud-africains pensent que c'est un étranger, et pourtant ça peut être un sud-africain. Donc, la peur n'est même plus du côté seulement des étrangers d'aller dans les sentiers, mais c'est même aussi du côté même des Sud-Africains. Le plus gros problème pour les réfugiés, c'est que en fait, en raison des nouveaux ID qu'ils ont pu recevoir venant du gouvernement, les gens n'ont pas compris pourquoi on leur donnait des papiers temporaires de 6 mois quand les gens possédaient des papiers. Étant réfugiés, ça fait, je veux dire, étant réfugié pour 2 ans ou 1 année, pourquoi elle devrait échanger ce papier contre un papier temporaire?
Je vous retrouve encore, Junior Badila. Là, c'était la situation en Afrique du Sud, avec des Congolais, ils commencent à fuir les camps déplacés parce que certains préfèrent rester ou vivre dans l'illégalité. Mais finalement, la situation du pays actuellement, à part l'Est du pays, est-ce qu'elle ne vous attire pas, vous, Junior Badila, à regagner le pays?
Monsieur les journalistes, merci pour la question. Mais d'abord, avant de répondre à votre question, j'ai oublié de signaler un point important.
Allez-y.
En matière de défense des Congolais résidant en Angleterre, il y a une association sœur, Congolese White, a amené le ministère de l'Intérieur à la Haute Cour. Je pense que les 18 ou le 19 novembre, ils vont aller à la Haute Cour pour étudier certains cas, pour décider sur le sort de ces Congolais dont vous faites allusion dans les programmes. Donc, pour l'instant, oui, il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui suspend les retours ou l'expulsion de Congolais. Donc, s'agissant maintenant du retour volontaire, je ne sais pas si vous parlez du retour volontaire
au pays.
Oui, s'agissant du retour volontaire du pays, pour retourner au pays, il faut d'abord les pays d'accueil, les stupides. Les lois des pays d'accueil ici, les stupides. Pour retourner au pays d'accueil, il faut certaines conditions de stabilité. D'abord ici, il y a les liens qu'on remet aux citoyens volontaires de retour au pays. Mais ces fonds, on vous remet l'équivalent de 3 500 $ pour regagner au pays.
Oui.
Qui vous dit qu'avec 3 500 $, votre situation va changer? Qui vous dit qu'avec 3 les problèmes, c'est les problèmes de la sécurité politique, la sécurité financière, la sécurité sociale au pays. Quelqu'un vivant en situation clandestine ici au pays,
vous pensez qu'il vit mieux qu'en RDC?
Il vit mieux qu'en RDC. Je pense pas qu'il fasse hasarder de lui-même. Il y a des cas de retour volontaire. Nous l'avons constaté dans notre association Bison Africa, des cas de retour volontaire au pays. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui était docteur, médecin, en République démocratique du Congo. Il a laissé ses enfants, il a laissé sa femme, tout ce qu'il avait. Il est venu demander l'asile ici. Pendant 3 ans, la situation n'a pas changé. Il vivait de pire en pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au gouvernement anglais pour demander son retour volontaire. Le monsieur a été aidé avec quelques équipements médicaux pour aller pour ouvrir un centre hospitalier, etc. La situation marche. Sur le plan social, je pense qu'il essaye de stabiliser. Mais prenons le cas de quelqu'un qui cherchait sa vie. Pour lui, sa vie, c'était l'Europe. La vie sociale, c'était l'Europe. Pour regagner au pays, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Des projets d'avenir au pays, la situation sécuritaire au pays. Si tous ces éléments ne sont pas garantis, je pense que les retours volontaires, c'est un faux problème.
Oui, mais pour l'ensemble, pour la plupart des Congolais, donc pour vous, vous estimez, Junior Badila, que les conditions ne sont pas encore réunies pour encourager ce retour volontaire en masse?
Tout à fait. Les conditions ne sont pas encore réunies pour encourager les retours en masse. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la mise en place du ministère chargé des Congolais à l'étranger a été accueillie avec joie ici en Angleterre. Parce que la diaspora congolaise ici en Angleterre avait des idées, pensait que le ministère ou la ministre ou les ministres pourraient faire un voyage, c'est-à-dire des pays en autre. Je prends un exemple, venir ici en Angleterre, expliquer aux Congolais la situation au pays. Quelles sont les conditions
allez-y rapidement, Julien, parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps.
Quelles sont les conditions qui garantissent la sécurité de ces Congolais au retour au pays?
Julien Badila, rapidement, qu'est-ce que vous reprochez justement à ce ministère chargé des...
Ce que nous voulons, c'est au ministère de nous expliquer clairement de garantir la sécurité des citoyens qui sont ici, qui veulent retourner volontairement au pays. Leur situation sécuritaire, leur situation sociale, leur projet, qu'est-ce que le gouvernement offre à ces Congolais durant le pays pour leur sécurité sociale?
Merci beaucoup, Julien Badila. Professeur Moïla Siembe, vous pensez que c'est ça que devait faire le gouvernement pour que vous, peut-être avec votre famille, vous rentriez à Kinshasa?
Mais disons qu'il y a la première chose qu'il faut dire, c'est que les Congolais de l'étranger, que ce soit la Fédération des Congolais ou d'autres organisations, avaient toujours souhaité qu'il y ait un ministère plein exercice qui s'occupe des problèmes des Congolais de l'étranger. On s'était félicité de voir que le président de la République avait accepté de faire créer ou de créer ces ministères, même si c'est encore un ministère adjoint, donc qui n'est pas encore un ministère de plein exercice.
Ouais.
Mais ça, c'est déjà au moins un acquis. On a un interlocuteur avec qui on peut parler. Mais ce qui manque, c'est une politique nationale en matière d'accueil des Congolais de l'étranger. Non seulement ceux qui sont expulsés. Quand on regarde ici, à Paris, quand il y a des Congolais qui sont en centre d'internement pour être expulsés au Congo, et il faut les visiter, il faut les voir, il faut les encourager, éventuellement, il faut prendre les avocats pour les défendre. Mais nos ambassades, comme nos consulats, sont dans un état de déliquescence tel qu'il n'y a que les associations qui se mobilisent pour aider ces gens-là. Or, ils ont besoin parfois d'un reconfort, d'une visite, d'un avocat pour défendre leur cas. Il y a parfois des Congolais qui sont retirés du liste après la défense des avocats pour montrer que parfois la police n'a pas tenu compte de tel ou tel point de droit favorable à leur égard. Donc, l'absence de la politique congolaise en matière d'accueil des Congolais, non seulement les Congolais expulsés parce qu'entrés clandestinement, même les Congolais qui viennent investir au Congo. Combien de gens sont venus après avoir monté deux ou trois sociétés de transport à Kinshasa ou je ne sais pas dans quelle autre ville, après avoir créé un petit commerce, etc., au bout de 2 ou 3 ans, se trouvent dans des difficultés telles au point de vue du droit, pour il faut donner un petit rien ici, un petit rien là-bas, avant même de faire montrer un
entreprises. Il y a des gens qui sont ruinés dans les démarches pour monter les entreprises et qui rentrent pour les ici.
Merci, professeur.
Tout ceci, pour dire quoi? Pour dire que, par exemple, les assises des Congolais de l'étranger qui commencent le mois prochain, qui ça, doivent être le moment clé pour pouvoir présenter les conditions ou les éléments d'une politique congolaise d'accueil des Congolais de l'étranger, non seulement ceux qui sont expulsés, mais les Congolais qui veulent investir, les Congolais qui veulent, par exemple, dans le domaine de la santé, utiliser leurs vacances ici comme médecins, comme sage-femme, comme
infirmière,
pour donner un coup de main dans des hôpitaux de Côte du Congo. Tout ceci est possible, à condition qu'il y ait une politique nationale dans laquelle les Congolais de l'étranger, dans un partenariat, peuvent donner un coup de main au gouvernement congolais.
Merci beaucoup, professeur Moïla Tchimbé. Nous prenons d'abord les premières réactions avec vous, Titi Mputu, bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude, la première réaction nous vient de Bounia, en province orientale. Il s'appelle Faraja, il pense que les Congolais doivent cesser de s'aventurier chez les autres, car il est temps de construire leur pays. Eric Mondo de Mbujima et au Kasaï Oriental, de son côté, pense que si le gouvernement congolais crée une sécurité économique, juridique, vitale et sociale décente, le Congolais ne fuirait pas son pays.
Merci, Christine Poutou. On commence d'abord par ces réactions et nous vous les posons, Baïtoura Mousso Achabrak, monsieur le député national. Vous pensez, vous comme Faraja, que les Congolais doivent cesser d'aller s'aventurer chez les autres, qui doivent rester construire le pays?
Oui, je vais aller tout droit au but pour aborder dans le même sens que madame qui vient de parler. Nous pensons effectivement comme responsable au niveau du pays que nous ne devrions pas continuer à encourager ceux de nos compatriotes d'aller faire des aventures à l'extérieur. Le moment est venu pour que nous puissions, nous tous Congolais, à nous attirer à la reconstruction de notre pays. Et je crois que autant les pays nantais, autant nous-mêmes Congolais, nous pensons que chacun a sa part de responsabilité à jouer. Et les pays nantais, nous pensons qu'ils devraient soutenir impérativement une économie auto-centrée au niveau des pays moins nantais, de sorte à créer une stabilité économique et sociale dans les pays qui n'encouragerait plus les Congolais à quitter leur pays, étant donné qu'ils trouveraient tout ce dont ils auraient besoin dans leur propre pays. Mais nous pensons aussi qu'au niveau de notre pays, nous devons impérativement renforcer les conditions d'immigration et ne plus permettre à n'importe qui de sortir sans qu'il y ait des papiers, sans qu'on ait vraiment les motifs pour lesquels on doit immigrer dans notre pays. Et je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire, que nous ne devons pas continuer à faire des aventures à l'extérieur et continuer à ternir l'image de notre pays qui veut maintenant s'appeler à sa reconstruction et qui veut reconquérir sa place de choix dans le Conseil des Nations.
Oui, monsieur le député, vous savez très bien combien de gens, avant d'enterrer un corps par exemple, doivent attendre des coups de fil de ces mêmes Congolais, que vous, dont enfin, peut-être que vous vous qualifiez d'aventurier, et vous savez quel est le poids économique de leur assistance dans beaucoup de familles au pays, vous le savez.
Oui, oui, je sais, je le sais bien, je sais qu'il y a un chiffre là, c'est plus ou moins 40 millions de revenus de nos Congolais qui vivent à l'extérieur, mais nous pensons qu'autant nous les félicitons pour cette rentrée de vie dans le pays, autant nous les encourageons à vivre dans ce pays autre tout en respectant la réglementation de ce pays-là.
Merci beaucoup, monsieur le député. On va prendre rapidement une dernière réaction pour ce soir. Elle nous vient de Bounia, ou plutôt on va aller au Nord Kivu avec Christian Ndoku, Titi.
Christian Ndoku de Butembo Nord Kivu veut savoir ce que le gouvernement congolais compte faire pour aider le Congolais vivant en Grande-Bretagne dans l'illégalité.
Rapidement avec vous, Junior Badila, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, parce qu'on n'a pas le gouvernement dans cette émission. Rapidement, en une minute.
D'abord, ça commence l'ambassade, c'est les ponts entre les Congolais ici et les gouvernements se passent parce que c'est comme on dit le porte-parole. Mais est-ce que l'ambassade ici travaille selon l'ambassade d'ici a tous les moyens possibles pour répondre à tous ces problèmes? Je pense pas. On parle des 4000. Est-ce que l'ambassade d'Angleterre ici est capable de délivrer 4000 attestations consulaires pour tous ces Congolais qui seraient peut-être rapatriés volontairement chez eux? Je pense pas. Parce que tous ces Congolais chacun d'eux a besoin d'une attestation consulaire, ou chacune des familles a besoin d'une attestation consulaire pour rentrer chez eux. Est-ce que l'ambassade ici, je pense pas qu'il y a tous les moyens pour faire la vie, les conditions dans lesquelles vivent nos ambassades ici en Europe.
Merci, Junior.
Donc, c'est ce que nous voulons du gouvernement.
Merci, Junior.
C'est ce que nous voulons du gouvernement.
Vous l'avez dit, il faut beaucoup de moyens, Junior. On vous a compris, je suis désolé. On doit s'arrêter là. C'est la fin de cette émission. Voilà, mon cœur était à la technique. Claude Kenza, plutôt Guy Roger, à la réalisation. Alors, en nom de toute l'équipe de Dialogue en Congolais, je vous dis merci de nous avoir suivis.